Voilà, rebonjour à tous. C'est vrai qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. Hein, et les pasteurs ne naissent pas avec une Bible sous le bras, ou un micro. Hein. Voilà. Je suis originaire de Normandie. Il y a des Normands dans la salle? Oui, il y en a une. Voilà. Donc je suis né en Normandie, dans une famille catholique païenne. Non pratiquante, on croyait en rien. On avait, comme le disait ou le chantait le pasteur Eggenbach, la religion à quatre roues. Donc on allait à l'église pour les enterrements, les mariages, communion, voilà, les baptêmes. Mais aucune connaissance du christianisme, aucune connaissance biblique, rien. Des ignares. Voilà. Et donc l'évangile a fait irruption dans ma famille. Parce qu'on a traversé une épreuve, mon père est tombé gravement malade à l'âge de 40 ans. Du jour au lendemain, il ne pouvait plus travailler, il a dû cesser toute activité. Et donc, c'était quelqu'un de très actif, c'était le genre à faire la journée chez le patron, il était plombier, chauffagiste. Et puis le soir, il mettait la caisse à outils dans le coffre de la voiture, et il allait faire une deuxième journée jusqu'à 2-3 heures du matin, vous voyez, pour payer la maison, payer tout ce qu'il y avait à payer. Voilà, donc je suis issu d'une famille, on est quatre enfants. Et comme ça, du jour au lendemain, tout s'est arrêté à l'âge de 40 ans. Alors évidemment, ça a créé un impact sur la famille. Tout a changé à partir de ce jour. Donc il a été pris en charge par les médecins. Et entre autres, un spécialiste, un pneumologue, parce que c'était des problèmes pulmonaires. Et donc cet homme, avec beaucoup de tact, on va dire beaucoup de compassion et beaucoup de délicatesse, après avoir observé, regardé tous les examens qui avaient été pratiqués, lui a dit « Mon pauvre vieux, t'es foutu. Tu as les poumons comme un vieillard de 80 ans, je ne peux rien pour toi. » Voilà, la porte, elle est là, ça fait tant. Ça s'est passé presque comme ça. Donc il est sorti de là complètement groggy. Voilà. Et à partir de ce jour, ça a vraiment changé. Et il était très, très pessimiste, très morose. Très souvent, il disait « Ah, faut que je m'arrête à la droguerie, je dois acheter une corde. » Voilà, c'était l'ambiance. Et donc, moi, j'étais jeune, j'avais 16, 17 ans. Et on a vécu cela. J'ai vu défiler à la maison des magnétiseurs, des guérisseurs, des espèces de sorciers de toutes sortes qui venaient essayer de monnayer leur savoir-faire. À part la monnaie, ça n'a pas produit grand-chose. Hein. Ils n'ont pas eu grand effet. Et là où ma maman travaillait, il y avait un chrétien qui travaillait dans une usine pour l'industrie automobile, hein, les carburateurs Solex, si ça dit quelque chose à quelqu'un. C'est dans les années 70-80. Et cet homme chrétien avait un cœur pour témoigner. Il avait un cœur pour partager la bonne nouvelle. Il était chariste, il conduisait le Fenwick là, dans cette grande usine, et il avait comme un détecteur pour rendre témoignage à des personnes dans le besoin. Et il a vu la tristesse, il a vu la souffrance qui était là sur ma maman, et il est venu, il a pris contact, tout doucement, tranquillement, jusqu'à ce qu'elle puisse ouvrir son cœur et dire ce qui se passait, le drame qu'il y avait dans la famille. Et simplement, il a dit « Est-ce que vous accepteriez qu'un pasteur vienne vous rendre visite ?» Alors après, les sorciers, les guérisseurs, les magnétiseurs, pourquoi pas un pasteur, hein. Et mon père a dit, si ça fait pas de mal, si ça fait pas de bien, ça fera pas de mal. Donc le pasteur est venu, et je me souviens de ce jour, et je me souviens des mots de mon père. Quand le pasteur a été là, qu'on le regardait un peu comme une chose curieuse, mon père lui a dit, vous savez, c'est la première fois qu'on voit un pasteur, parce que jusqu'à présent, nous n'en avons vu que dans les westerns. Pour vous dire le niveau extraordinaire de culture religieuse et autres. Voilà, et il y a eu cet entretien. Alors nous, on était là, on n'était pas là, hein. on était jeunes, j'ai un frère aîné et deux sœurs plus jeunes. Puis de voir des gens défiler, c'était l'habitude. Ce qui était l'habitude aussi, c'était le SAMU en pleine nuit, la tente à oxygène, etc., ces choses-là, oui. Et puis le pasteur a donc parlé. Mes parents se sont mis à s'absenter de temps en temps, le soir, puis le dimanche. Et nous, on était là, on dit, qu'est-ce qu'ils trafiquent? Qu'est-ce qu'ils font? Et on a appris qu'ils allaient à l'église. Alors ils nous en ont parlé, et moi quand ils m'en ont parlé, ça a été compliqué. J'ai dit, ben, si ça vous fait du bien, allez-y, mais moi, vous m'en parlez pas. J'étais un peu rebelle. Alors, j'avais les cheveux jusque-là, ça paraît pas aujourd'hui, hein, mais il fut une époque. Je roulais en moto, et moi, c'était la moto, mes amis, mes copains, etc. Et puis, aller à l'église, alors là, franchement, c'était la dernière chose à laquelle j'avais envie de participer. Mais bon, ils ont été tenaces, puis quelques chrétiens sont venus, tout ça. Alors, je voyais ces gens un peu bizarres, là, qui venaient à la maison, parfois. Et puis, ils m'ont invité. Alors, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, tu sais, pour que tu me fiches la paix, je vais y aller une fois pour toutes. J'y serai venu, et après, tu me lâches avec ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Donc, j'y suis allé. Seulement, elle avait un problème, c'est qu'elle a dit au pasteur, elle a dit, vous savez pas, il veut venir en moto. Elle avait observé qu'il n'y avait pas de moto à l'église, hein. Et puis, voilà, il va arriver, il est en cuir, il est, voilà, comme il est, avec son casque. Hein. Alors le pasteur a dit, laissez-le venir comme il est. Voilà. Et je suis venu, c'était un culte. Pourquoi un culte? Parce qu'il voulait m'amener soit le dimanche après-midi, soit le mardi soir à l'évangélisation. Et moi, je voyais qu'ils allaient au culte, le dimanche. Alors je leur disais, mais il y a des choses à cacher? On ne doit pas voir certaines choses pour y aller que le soir à certains moments. Non, moi je veux y aller au culte. Vous voyez, on met ces exigences. On se croit quelque chose ou quelqu'un et on est comme ça à mettre des exigences devant Dieu. Et là encore, le pasteur dit, laissez-le venir, garer sa moto au culte et tout ça. Et j'y suis allé. Et le souvenir que j'en ai, c'est que c'était un peu long quand même. Hein. Ça a duré longtemps. Et là, il s'est passé quelque chose. J'ai été extrêmement surpris, étonné de ce que je voyais, de ce que j'entendais. Je n'avais jamais mis les pieds dans une église évangélique. Elle ressemble un petit peu à celle-là, avec de la moquette, des chaises, un pupitre, etc. Je n'avais aucune image de ce que ça pouvait être. Et là, j'ai été touché par une certaine ambiance. Et quand on m'a invité une deuxième fois, j'ai dit oui. Et je suis venu, avec la moto, toujours. Et en l'espace de 3 mois... Dieu avait touché mon cœur, j'étais converti, né de nouveau, baptisé. Voilà. Entre décembre et mars, tout était fait. Et ça a été un bouleversement complet, une chose incroyable dans ma vie. J'ai découvert l'Évangile, j'ai pour la première fois touché une Bible, lu une Bible, et ça a été une révélation formidable, extraordinaire. Mais quand je suis retourné vers mes copains, ils se sont demandé ce que j'avais, hein. Voilà, parce qu'en même temps que je me rapprochais de Dieu, je suis tombé malade. Mais suffisamment malade pour me retrouver au centre Henri Becquerel, à Rouen, en cancérologie. Donc là, ça commençait à sentir un peu le roussi quand même. Et donc j'ai perdu beaucoup de poids, je suis devenu... Voilà, j'avais du mal à monter un escalier, j'étais vraiment pas bien. Et plus j'avais cette épreuve de maladie, plus je m'approchais de Dieu. Et je me souviens un dimanche matin... Le pasteur, les anciens ont prié pour moi, ils m'ont fait venir devant, ils m'ont fait l'imposition des mains, l'onction d'huile, et pendant qu'ils priaient pour moi, pour être guéri, délivré de ce mal, j'avais une maladie de Hodgkin, pour ceux qui connaissent, les ganglions partout là, et donc une inflammation complète du système lymphatique, et pendant que je priais, il y a un ancien qui a prophétisé l'appel au ministère. Moi j'avais 4 mois de conversion, je ne savais même pas ce qu'il racontait. Voilà, tout ça s'est passé là, en un temps incroyable, et Dieu vraiment a béni, et j'ai été secouru, j'ai été guéri, j'ai retrouvé ma santé. Et pendant ce temps que mes amis voyaient que j'étais si diminué, je leur témoignais de Jésus, je leur parlais de la foi, je disais, le Seigneur va me guérir, et franchement, ils me prenaient pour un fou. Franchement, ils disaient, c'est pas possible. Et j'ai continué, alors ils ont vu que j'allais mieux après, bon, on fait ses choix de vie, moi je pouvais plus sortir, faire les sorties aux 24 heures du Mans, la moto... le samedi soir, compter le nombre de mètres de bière qu'on buvait, enfin c'était compliqué après, hein, en tant que chrétien, donc on a un peu arrêté certaines choses. Et puis voilà, et Dieu a béni, et l'été qui a suivi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit à l'Égual, sur la montagne, pour ceux qui connaissent, le centre de vacances. Et puis voilà, il y avait cet appel au ministère dans ma vie. Et un de ses amis, je vais terminer par là, avec qui je sortais, avec qui j'étais, tout est parti un petit peu en vrille, comme on dit aujourd'hui dans sa vie. Il a abandonné les études, puis s'est mis à se droguer un peu, et un peu beaucoup des fois même. Voilà. Et un mardi soir, il m'a téléphoné, quelques années plus tard, c'était 3-4 ans après ma conversion, il m'appelle et il me dit, Laurent, tu vas toujours à l'église là? Je l'avais amené une fois pour voir. Je lui dis oui. Il me dit, t'as une place dans la voiture? Je lui dis, ouais, j'en ai 3. Pas une, 3. Je l'ai amené, et ce soir-là, il y avait une mission avec Joe Santana. Et ce soir-là, cet ami, eh bien, il s'est converti. Amen. Et là, il ne disait plus que j'étais fou, hein, parce qu'on était deux fous ensemble. Voilà, alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand. Et il a fait cette œuvre dans ma famille. Et j'ai pris le baptême le même jour que mes parents, dans la même eau. Hein, c'était en mars 1980. Et là, nous étions 26 baptisés. Amen. Et je termine avec ceci, c'est que l'homme qui a amené à la conversion, ma maman, il a gagné mon papa, il m'a gagné moi. Et lors du baptême, il y avait 26 personnes, et bien il y en avait 18 qui étaient le fruit direct de son témoignage. Et après, dans l'usine, les gens quittaient l'usine, ils venaient à la réunion. C'était, voilà, il y avait quasiment dans l'assemblée, et bien les gens qui travaillaient ensemble tout le jour et qui venaient aux réunions ensuite ensemble, tellement cet homme, si simple, a su parler de l'Évangile. Et ça, ça m'a profondément touché de voir comment Dieu se sert, eh bien, d'un chrétien tout simple qui accepte simplement de parler de lui. Amen. Donc Dieu est grand. Et ça, ça fait quelques années, hein, 1980, vous avez fait le compte déjà de combien ça fait, hein, j'imagine. Hein, voilà. On va partager la parole de Dieu. Vous êtes venus pour ça aussi. Alors, j'ai l'iPad, mais en fait, ce n'est pas ça qu'il faut que je prenne, c'est ma Bible. Voilà, tout le monde a sa Bible, c'est bon? Voilà. Une lecture dans la première épître à Timothée, chapitre 1er, pardon, 2, chapitre 2, le verset 1er. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 1er. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, écoutez bien, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage, ou là le témoignage rendu en son nom propre, en son propre temps, pardon. Et dans lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Et je retiens particulièrement, eh bien, cette parole, lorsqu'il nous est dit que ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Au verset 5, il est dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. En France, on a une réputation. Moi, j'ai des amis américains, j'ai des amis australiens, j'ai des personnes qui viennent de l'extérieur. Et ce qui les frappe parfois, c'est de voir comment nous sommes capables de faire grève. Ça vous dit quelque chose? Réputé dans le monde entier pour les grèves. Grève des trains, des transports, grève d'avions. Voilà. Et je me souviens d'amis qui étaient choqués de par les grèves des éboueurs. Vous ne connaissez pas ça à Toulouse, hein? Mais parfois à Paris, et j'ai vu à Marseille, des grèves des éboueurs. Une semaine, deux semaines, trois semaines sans ramasser les poubelles. Vous imaginez? Et là, les touristes qui sont là, ils disent « Oula, c'est ça la France ?» Incroyable. Donc, nous sommes un pays qui aime faire grève. Et en général, quand il y a la grève, c'est parce qu'on ne s'est pas entendu, c'est parce qu'on est en colère, parce qu'on revendique. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a grève? Une fois qu'on a bien mis la panique, hein, là il y a la grève à Air France il n'y a pas longtemps, il y a eu des échauffourées, on a eu ces images qui ont fait le tour du monde, là des gars en chemise qui essayaient d'escalader pour ne pas être lapidés. Eh bien, on va nommer un médiateur. Un médiateur. Vous savez ce que c'est un médiateur? C'est quelqu'un, littéralement, eh bien, qui va se mettre au milieu, se met au centre, entre les deux. Le médiateur, c'est un intermédiaire entre deux parties qui sont séparés, voire opposés, mais lui va chercher à les raccorder, à les réconcilier. Ça, c'est un mot, un concept biblique, la réconciliation. Le médiateur va donc écouter les uns, il va écouter les autres, et il va essayer, tant bien que mal, de faire que ces gens-là puissent s'entendre. La Bible nous dit que entre Dieu et les hommes, il y a un médiateur. Alors je pose la question, serions-nous fâchés avec Dieu? Serions-nous contre Dieu? Serions-nous hostiles à Dieu? Aurions-nous des conflits, des querelles? Aurions-nous tant de choses à reprocher à Dieu? C'est la situation qui existe entre Dieu et l'homme. Nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes dans un monde qui essaie de vivre sans Dieu. Mais quand on dit vivre sans Dieu, ça ne veut pas dire vivre sans religion, vous avez observé? Quelle ingéniosité à créer des religions! Quelle capacité à mettre en place des systèmes religieux extraordinaires! Et vous remarquerez que les systèmes religieux, ils ont toujours la même direction, c'est-à-dire que ça part de l'homme pour aller vers Dieu. On veut s'élever vers Dieu. Et si vous faites, si vous pratiquez, si vous obéissez, bon, ça c'est le concept des religions, alors peut-être vous arriverez jusqu'à Dieu. Système des œuvres très souvent. Tu fais, tu auras. Tu fais pas, tu n'auras pas. L'Évangile nous dit que c'est Dieu qui vient jusqu'à nous. C'est un processus inverse. C'est une autre démarche. Et en la personne de Jésus-Christ, Dieu vient jusqu'à nous. Et il se présente à nous comme celui qui veut nous réconcilier, qui veut être le médiateur. Il est lui, le moyen de contact entre Dieu, duquel nous sommes séparés, et l'humanité que nous sommes. Donc le médiateur, c'est quelqu'un qui a un rôle central, extrêmement important. Alors, ah oui, elle est là. Il y a une croix ici. Vous savez que la croix, c'est le symbole du christianisme. Vous saviez ça? Quand même, hein? Il y en a, ils s'en font tatouer, ils portent en boucle d'oreille, ils se le mettent dans le nez, enfin. Avant tout, la croix, c'est un instrument de torture, inventé par les Perses pour faire mourir à petit feu leurs ennemis. Et donc les Romains ont repris ce concept de mise à mort, hein, ce système de la croix, et ils l'ont vulgarisé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Les Romains ont popularisé la crucifixion et c'était vraiment quelque chose d'extrêmement pratiqué à leur époque. La croix a deux dimensions. Elle a une dimension verticale et elle a une dimension horizontale. Et je crois qu'au travers de ce symbole, il y a là quelque chose d'important. Verticale dans le sens où c'est Dieu qui vient jusqu'à nous. Horizontale dans le sens où le Christ crucifié sur la croix ouvre ses bras. Et ce sont des bras accueillants, des bras d'amour, des bras qui attirent vers lui. Et plus encore, vous remarquerez que quand le Christ est crucifié sur la croix, il est suspendu entre ciel et terre. Et je trouve que là, c'est une image extraordinaire du médiateur, celui qui est au milieu, celui qui est entre les deux. Et tout le péché du monde, toute la colère divine, la justice de Dieu est sur le Christ à ce moment. Et nous le savons, ce n'est pas pour ses propres fautes, ses propres péchés qu'il va mourir, c'est pour les nôtres. Il se substitue, il prend la place, il meurt à la place des coupables que nous sommes. Lui, Jésus, le Christ. Il est, dit la Bible, le seul médiateur. Lui-même, le Seigneur Jésus dira, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Parfois, ça heurte les gens, ils se disent, « Oh, mais non !» Non, non, il y a plein de religions, chacun utilise sa propre voie. Et je crois que la religion, souvent, eh bien, elle produit, hélas, la division, la guerre. Elle produit des systèmes qui sont autant de systèmes d'oppression, des systèmes politiques, des systèmes oui, qui vont dominer les hommes et ne pas les libérer. Et le christianisme n'a pas été épargné par cela. Si on étudie l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que, hélas, à certains moments, eh bien, l'Église, au nom du christianisme, a été aussi un système dominateur d'oppression. Alors il nous faut revenir à la source, à la vérité de l'Évangile. Vous êtes d'accord? Revenir à cette croix, revenir au pourquoi de la mission de Jésus, pourquoi il est venu. Eh bien, cet après-midi, nous nous souvenons qu'il est le médiateur. Le médiateur... Dans ce mot, il y a le mot « média ». Nous sommes dans une société surmédiatisée. Et il y a des médias partout. On en a parlé ce matin, on va continuer d'en parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'un média, finalement? C'est un moyen de communication qui va se mettre entre un émetteur et vous qui êtes le récepteur. Un média, c'est rien de plus que cela. C'est un outil, un moyen qui va permettre de diffuser une information. Et dans la société où nous sommes, médiatisée, eh bien, en tant que chrétiens, nous devons faire office, eh bien, de médiateurs aussi. C'est-à-dire nous placer entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et le Seigneur qui nous envoie comme ses témoins. Nous devons être là comme des poteaux indicateurs et de montrer un chemin, de montrer une direction. Et pourquoi on le fait ? Parce qu'on a soi-même expérimenté cette grâce. Comme je disais tout à l'heure, les prédicateurs ne naissent pas avec une Bible sous le bras. Et vous avez compris, au travers de quelques mots de mon expérience, de mon témoignage, j'en étais très loin. Il m'a fallu avoir 17 ans et demi pour voir une Bible pour la première fois et la lire. Donc, il y a là une révélation, quelque chose qui nous saisit, qui vient de Dieu, et non pas quelque chose qui nous est inculqué, dans lequel on va être éduqué, et finalement, on est chrétien par l'éducation. Non. Il faut que nous soyons saisis par cette grâce et ce message de Dieu. Alors, la bonne nouvelle, elle doit être annoncée aujourd'hui encore. Ce n'est pas que pour les temps anciens, hein, c'est pour aujourd'hui encore. Et ce Jésus médiateur, ce Jésus qui se positionne entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes, eh bien, il est toujours actuel, c'est toujours une réalité, c'est toujours quelque chose de vivant qui doit nous saisir. Alors, pour annoncer cet évangile, eh bien, on utilise toutes sortes de moyens, et en particulier donc les médias. Et on va passer à la deuxième partie. On va prier avant de mettre en place le vidéoprojecteur. Et tout.